Bien, merci pour cette présentation. Merci aussi pour m'avoir invité à ce colloque extrêmement riche et ambitieux qui nous permet à la fois de reprendre des choses très connues. Enfin, l'impressionnisme fait partie de la culture de tous, mais de les regarder d'une autre façon, à la fois avec des regards, je crois, très précis, très scrupuleux, très détaillés. On l'a vu à travers les analyses des documents et des images, mais aussi à travers justement cette comparaison franco-américaine qui ne va pas forcément de soi et qu'il faut peut-être réinterroger. Enfin, ça avait été déjà évoqué dans l'introduction du colloque, mais je crois qu'il faut peut-être revenir un peu plus en détail sur ce qui justifiait, outre le fait que nous sommes évidemment dans un lieu franco-américain, de choisir cette comparaison franco-américaine. Alors, comme l'a rappelé Philippe Nord dans son texte, l'évidence, c'est qu'à l'époque que nous étudions, donc la seconde moitié du XIXe siècle et sa dernière partie, seuls deux grands pays sont des républiques démocratiques, la France et les États-Unis. Donc, puisque la problématique du colloque, c'est l'interrogation sur la politique vue à travers la peinture ou vue par les peintres, c'est d'un cadre commun qui pourrait justifier cette comparaison. La deuxième justification, nous en avons l'illustration dans le lieu même où nous sommes, c'est l'attractivité exercée par Paris à cette époque sur un grand nombre de peintres étrangers, en particulier américains, et donc le fait qu'il y a des relations intensives entre les deux rives de l'Atlantique, du moins dans la sphère artistique. Or, si j'essaye d'éclaircir mes idées, comme vous essayez sans doute de le faire vous-même au terme de cette journée très riche, ce qui m'est apparu, j'ai essayé de reprendre un peu mes notes et d'écouter dans cette perspective tout ce qui nous a été dit, ce qui apparaît le plus, c'est plutôt les différences, les oppositions, les séparations, les divergences entre ces peintres qui, par ailleurs, donc viennent de deux pays qui ont des institutions assez parallèles, même s'il y a des spécificités, bien entendu, entre les deux républiques, et qui, par ailleurs, partagent la même esthétique, les mêmes valeurs communes quant à leur rapport à la tradition. Alors la première évidente différence, c'est évidemment qu'en France, cette République est toute jeune. Elle est en train de naître, hein, elle est en train d'arriver à l'âge adulte, et encore, elle n'est pas tout à fait sûre de ses bases, puisque nous l'avons vu, elle est frappée par des crises répétées, la chute du Second Empire, la Commune, la difficile mise en place des institutions, les crises qui coïncident avec le boulangisme, puis l'affaire Dreyfus. Donc c'est une République qui est encore vagissante et vacillante, alors que la République américaine va fêter, elle, son centenaire, et même si elle est traversée par des courants politiques divergents et qu'elle a quand même connu une très grave crise avec la guerre de sécession, elle fonctionne et en tout cas, même s'il y a une contestation, cette contestation reste dans le cadre légal alors que, comme nous l'a rappelé Philippe Nord, il y a des tentatives encore de coup d'État en France. Deuxième différence, bien entendu, c'est la rapidité des transformations des deux pays. L'un et l'autre sont au stade où ils entrent dans la modernité industrielle, la modernité économique, mais la France reste un pays beaucoup plus traditionnel. Et le fait que les impressionnistes, bien sûr, aient une grande tendresse pour les peintures de paysages, pour les paysages bucoliques, les campagnes, et que Monet lui-même se soit installé ici même, indique que ces racines rurales, cette France traditionnelle, cette France un peu immémoriale, reste encore extrêmement forte, alors que les États-Unis, eux, s'engouffrent dans l'industrie, dans la ville, dans les gratte-ciels, donc dans un modèle beaucoup plus actif vers la modernité. Et par conséquent, on voit bien le rapport au changement n'est pas le même. Et on a eu même des citations de l'une des intervenantes sur le fait que déjà en France, on s'interroge sur l'américanisation de la France. Et évidemment, c'est un thème qui est toujours d'actualité. Donc ces différences, bien sûr, pourraient nous dire s'il y a autant de différences, pourquoi faire cette comparaison? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il faut prendre ce mot de politique et ce mot de rapport, finalement, à l'actualité dans un sens plus symbolique et dans un sens plus profond que simplement le fait que les uns sont plus modernes ou moins modernes, que les autres sont plus traditionnels ou moins traditionnels, ou que les uns sont plus radicaux ou moins radicaux. Je crois que ce qui est intéressant dans la comparaison, c'est que cette politique, on la trouve finalement à un niveau plus profond que le fait de faire des tableaux sur des drapeaux américains ou sur des drapeaux français, ou le fait de prendre position sur l'amnistie des communards ou sur l'exécution de Maximilien. Ça, c'est évidemment une façon de faire de la lecture politique des œuvres, mais c'est un peu une lecture un peu classique, traditionnelle, alors que ce qui me semblait le plus riche dans toutes les communications que nous avons entendues, c'est que cette politique, on la retrouve à un deuxième niveau, plus profond, et qui n'est pas le niveau de l'anecdote ou le niveau du sujet, mais le niveau justement de la forme, le niveau du regard, le niveau du découpage, le niveau de la construction des tableaux, le niveau du choix des thèmes, mais surtout de la façon de saisir ces thèmes. Alors on l'a vu en particulier à travers les très belles analyses que Clémenceau faisait de la série des cathédrales que nous a restitué Ségolène Lemen. On le retrouvait aussi à travers les vues de Belle-Île d'André Dombrowski ou les images des femmes analysées par Judith Barker à partir de l'exemple de Marie Cassatt ou encore des éclairages urbains que Hollis Claesson a déchiffré pour nous ou encore avec les mises en scène patriotiques de Shahid Hassam restitué par Patricia Juncker. Ce qu'on a vu, c'est que ce que le peintre voulait nous dire, en fait, ce n'était pas le message le plus explicite qui apparaissait, mais c'était à un niveau plus profond. Alors évidemment, c'est là où on rentre bien sûr dans ce qui pourra être la discussion peut-être dans quelques instants. Est-ce que ces interprétations que nous ont proposées les uns et les autres ne sont pas des projections, ne sont pas de la surinterprétation par rapport à ce que peut-être le peintre lui-même avait en tête? Donc je vais faire comme si tous nos communicants avaient raison, comme si ce qu'ils nous ont dit était totalement incontestable, même si parfois on peut évidemment émettre des différences d'interprétation, puisque là on est à un deuxième niveau, on est dans un niveau plus symbolique, plus abstrait, et qui peut évidemment faire glisser, puisque c'est la sensibilité de chaque lecteur, de chaque auditeur ou de chaque spectateur qui entre en jeu. Et bien sûr, vous pouvez regarder un tableau différemment les uns des autres. Alors cette lecture au deuxième degré, je crois qu'on la voyait particulièrement dans l'exemple des cathédrales de Claude Monet et telles que Clémenceau les lisait, puisqu'on voyait qu'à travers ces cathédrales, ce que Clémenceau entrevoyait, c'était une révolution symbolique, si je reprends le terme que Ségolène Lemen a repris elle-même de Pierre Bourdieu, une révolution symbolique au sens où c'est l'objet lui-même qui est changé par la peinture. Le peintre s'arroge le droit de transformer le monde, de transformer la vision du monde, et il le fait sur un objet, et là c'est peut-être ça qui m'a non pas ennuyé, au contraire, je veux un peu interroger Ségolène Lemen là-dessus, le fait qu'elle n'a pas évoqué le fait d'avoir choisi la cathédrale, précisément. Je sais qu'elle a consacré une exposition à cette institution et à ce monument, mais dans son commentaire, elle n'a pas du tout fait intervenir, ce qui était quand même le paradoxe, que ce soit un homme particulièrement connu pour son anticléricalisme, Clémenceau, qui commente la peinture de son meilleur ami, qui, comme lui, est libre penseur, et qui, quand même, met en scène quand même le monument par excellence qui incarne l'Église, qui incarne la croyance, qui incarne, bien entendu, l'idée qu'il y a, au-delà de ce monde, autre chose, et que ce monument est à la fois la gloire de cette croyance et, en même temps, la personnification du sens de cette croyance. Or, dans ce qu'elle nous a dit, je n'ai pas entendu aucun commentaire sur ce point. Et c'est pour ça que peut-être la lecture politique peut être encore plus radicale. Et là, je joue sur les mots, puisque Clémenceau lui-même était radical. Peut être encore plus radicale, puisque ce peintre, finalement, arrache à l'Église son principal monument pour en faire autre chose, en faire la variation sur la lumière grâce au jeu des pierres et du soleil, mais il en fait autre chose puisqu'il dépossède en quelque sorte le contrôle de l'Église sur l'Église elle-même. Et évidemment, nous sommes dans les années 1886-89, or nous sommes juste après ce premier grand moment de lutte entre l'Église et la République. Donc, bien entendu, je fais peut-être moi aussi là de la surinterprétation, mais enfin, je ne pense pas qu'aucun spectateur qui voit une cathédrale entre 1886 et 1890 ne peut pas ne pas se souvenir que l'Église a été quand même l'objet d'une attaque très forte par la Nouvelle République. Et donc, choisir ça comme thème de peinture, c'est pas aussi anodin que de prendre le rocher de Belle-Île, même s'il se trouve que ce rocher de Belle-Île a servi de cadre pour l'évasion d'Auguste Blanqui. Mais enfin, voilà. Donc là, on peut voir évidemment de la surinterprétation, mais on peut aussi voir peut-être matière à discussion. Deuxième lecture, toujours à ce niveau un peu plus profond, en tout cas à un deuxième niveau d'abstraction, les expressions du patriotisme telles que vient de nous les restituer Judith Barker à propos des tableaux de Shahel Dassam, eh bien là aussi, si nous comparons avec des exemples que nous ont présentés, mais moins rapidement, enfin plus rapidement plutôt et plus succinctement, Philippe Nord, quand il a évoqué le tableau de Claude Monet sur la fête du 30 juin 1870, où il y avait aussi cette marée de drapeaux tricolores dans la rue Saint-Denis, ou encore cette fameuse lettre de Manet où il écrit « Vive la République » avec deux drapeaux français entrecroisés. Nous voyons bien que dans les deux cas, nous pourrions dire que c'est la même chose. Ce sont un peintre américain et deux peintres français qui exaltent leur drapeau national, mais on voit bien que ce drapeau national n'a pas tout à fait la même signification quand nous sommes, dans le cas de Shahel Dassam, donc en 1916, au moment d'interrogation sur le patriotisme américain défié et bafoué par les attaques allemandes et contre lequel on essaye de rassembler le peuple pour le préparer à l'idée que la guerre n'est pas impossible. Et inversement, quand nous sommes en 1878, donc, ou en 1880, au moment où la Troisième République, justement, redonne au drapeau tricolore toute sa signification révolutionnaire, en tout cas, veut l'arracher à son côté uniquement patriotique pour en faire le symbole du nouveau régime et du rattachement à la tradition révolutionnaire, nous voyons, bien entendu, que c'est apparemment le même objet qui est traité par les peintres, mais que la signification politique ou la signification symbolique de ce drapeau n'est pas tout à fait la même, puisque nous sommes dans deux contextes politiques franco-américains assez différents. Donc on voit bien que toutes ces lectures nous donnent évidemment l'idée que cette peinture n'est pas simplement une peinture qui aujourd'hui nous enchante ou nous plaît parce qu'elle nous évoque un monde disparu et extrêmement joyeux ou très bucolique ou abstrait, mais parce qu'en réalité, les peintres ont su dans leur art, donc traduire pas seulement donc une nouvelle vision du monde ou une nouvelle façon de peindre, mais aussi peut-être des grands conflits qui les traversaient, des émotions qui suscitaient chez eux l'idée qu'il fallait justement construire une nouvelle vision du monde. Alors il reste un troisième niveau que je n'ai pas pu développer parce que finalement c'est là où la divergence est peut-être la moins évidente. C'est ce qui est aussi une des caractéristiques du mouvement impressionniste, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc c'est cette volonté de la peinture de traduire, pour employer un mot galvaudé, mais enfin dont je vais essayer de donner un sens plus précis, la modernité, c'est-à-dire faire que la peinture soit aussi une sorte de tableau qui saisit la vie nouvelle, la vie moderne, telle qu'elle est en train de se transformer, en particulier dans les villes, avec justement ce nouvel urbanisme, avec ces éclairages qui changent, avec ces nouvelles institutions aussi de distraction, que ce soit le music hall, le café-concert, le théâtre, etc. Enfin, tout ce qui fait que ces tableaux n'ont pas pu être peints au XVIe siècle ou n'ont pas pu être peints au XVIIIe siècle. Donc, comment le peintre arrive à transcrire cette nouvelle société, cette nouvelle vie urbaine, tout en n'étant pas simplement ravalé au rang d'illustrateur ou au rang de simple accompagnateur des images de la vie nouvelle. Et là aussi, nous avons vu que pour des scènes analogues, je me souviens du premier tableau que nous avait montré l'introductrice du colloque avec ce tableau d'Union Square, elle insistait sur le fait qu'il y avait une assez grande différence avec des tableaux analogues d'autres peintres ou avec des tableaux qu'auraient peint des peintres français sur un thème voisin. Comme si le rapport à la ville, même dans deux pays qui sont en train d'entrer dans la même phase de la vie urbaine, le rapport au monde extérieur et aux relations entre les hommes et les femmes qui se nouent dans cette ville ne pouvait pas être exactement le même, tout simplement parce que, évidemment, la société américaine et la société française ont de fortes spécificités. Et on le voyait aussi dans ce que nous a démontré Hollis Clayton à propos de l'éclairage urbain, où elle insistait beaucoup sur la différence de relation à la lumière dans les villes, même peint par le même peintre, dans des moments différents de sa vie, quand il est en France ou quand il est aux États-Unis. On le voyait aussi dans les analyses sur Marie Cassatt, donc dans son, le regard qu'on nous a restitué sur les femmes, et en particulier la relation entre la femme et l'enfant, ou entre les hommes et les femmes dans les situations sociales de mise en scène. Elle a souligné, je crois à juste titre, que ça ne pouvait pas être peint par un homme et que, en tout cas, ça traduisait bien le regard très féminin et très, à la fois féminin et féministe, de Marie Cassatt, donc qui veut sortir de certaines conventions et qui veut traduire un certain nombre d'émotions entre la mère et l'enfant qu'un homme, évidemment, par définition, ou en tout cas à l'époque, ne pouvait pas traduire ou en tout cas n'aurait pas osé traduire puisqu'il n'y avait pas encore beaucoup de nouveaux pères à l'époque. Donc tout cela, évidemment, pourrait nous faire croire que la comparaison n'était pas forcément justifiée. Je crois que si, elle était justifiée puisqu'il y avait matière à comparer, en tout cas que les différences que nous avons trouvées sur notre chemin sont significatives et révélatrices à la fois d'un moment particulier de l'histoire que partagent deux pays, mais aussi, bien entendu, que derrière ce moment particulier, il y a aussi tous les héritages qui restent présents, toutes ces divergences politiques, historiques, symboliques, qui sont liées évidemment à chaque pays, à chaque tradition nationale, et qu'en dépit du fait que ces peintres américains soient venus parfois souvent et longtemps se baigner dans les eaux de l'Europe ou dans les eaux de la France pour saisir cet esprit de la modernité, ils n'en sont pas restés totalement évidemment neutres, mais ils n'ont pas non plus complètement perdu leur identité initiale, et ils l'ont enrichi d'autres façons de faire, mais ils ont gardé ce regard typique, ou en tout cas spécifique, qui était lié à leur propre formation et héritage. Bon, ce sont simplement quelques pistes, hein, et je suis loin d'avoir épuisé toutes les idées qui ont été échangées au cours de ces différentes communications. C'était simplement pour vous laisser le temps de réfléchir vous-même et de lancer vos propres questions. En tout cas, je crois que cette confrontation a été enrichissante pour tout le monde, aussi bien en termes de méthodologie. On l'a vu à travers des lectures différentes d'œuvres très, très variées. En termes aussi d'ouverture chronologique, puisque nous avons quand même parcouru un long chemin, hein, depuis le Second Empire français jusqu'à la guerre de 1914, en termes aussi de diversité des peintres et des thèmes abordés, hein, nous avons eu aussi bien des paysages urbains que des paysages naturels, et également peut-être en termes de confrontation, c'est ça qui, je pense, était le plus sensible, grâce justement aux soins avec lesquels les commentateurs ont organisé leurs exposés avec les projections, où on voyait se confronter des documents écrits et des documents visuels, des images de statues très différentes, depuis les caricatures jusqu'aux tableaux, évidemment, les plus ambitieux, y compris des grandes fresques, pour illustrer des expositions universelles. Donc, nous avons vu aussi comment cette comparaison, non pas seulement entre deux types de peinture ou entre deux types d'artistes, mais aussi entre des types de documents et des types d'images, peut être révélatrice sur le fonctionnement de deux cultures et des relations entre des œuvres de statut très élevé ou au contraire très modeste quand il s'agit d'images dans des journaux, on l'a vu avec les photographies, ou de caricatures qui se moquent de certaines réalités de la vie quotidienne. Je crois que c'est ça aussi qui nous a restitué peut-être cette atmosphère si intéressante de cette dernière partie du 19e siècle. Mais maintenant, c'est à vous de continuer mes remarques, je pense, peut-être de façon plus précise.